Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de l'Actuality Team sur PFM 99.9, l'émission de débat des lycéens sur des thèmes de société, sur des thèmes variés. À la rentrée, il y a eu beaucoup de lycéens qui ont afflué dans l'équipe pour essayer de débattre ensemble, et donc ce qui a contribué à la formation d'une deuxième équipe, et donc à vous l'antenne, la deuxième équipe, c'est à vous qu'on donne l'antenne aujourd'hui, à vous de jouer.
Bien le bonjour, ici Aurélie de l'équipe B. À ma gauche, il y a Anna.
Bonsoir.
Loïc.
Bonjour.
Et à ma droite, nous avons Owen.
Oui, c'est moi.
Ronan.
Et enfin moi.
Et aujourd'hui, la régie débat avec nous, donc nous sommes avec Théo.
Bonjour.
C'est exceptionnel.
N'est-ce pas ?
Incroyable.
Et nous commençons peut-être par la définition...
Alors,
nous allons débattre sur l'obsolescence programmée. Et Loïc va commencer par sa définition.
Une très petite définition, hein, simplement pour cadrer un peu le débat. Alors, l'obsolescence programmée, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque l'on limite la durée de vie d'un produit dès sa conception. Dès le début, utilisé par des industriels ou quoi. Enfin. Et Théo, tu as quelque chose à nous dire à propos de...
Alors oui, j'ai préparé une petite chronique là-dessus. Déjà, on va commencer par une question à vous. D'après vous, quels sont les produits qui souffrent le plus d'obsolescence programmée ?
Les imprimantes ?
Tout ce qui est électronique.
Les logiciels.
Les télés.
Télévision.
Les portables.
Ouais, surtout les portables,
téléphone,
les ordis
portable,
et tout, c'est ce qui coûte le plus cher, donc ils en profitent.
Tout ce qui est objet technologique.
C'est dur de progresser.
Ouais, tout ce qui touche aux nouvelles technologies.
Ouais, voilà.
Ou les ampoules peut-être.
Alors non, c'est pas du tout ça, il
n'y
a qu'une personne qui avait bon en fait. Donc sur un sondage sur 3300 personnes qui ont plus de 18 ans, la première place c'est l'électroménager qui arrivait à 18% des résultats. Après, il y a les smartphones, le petit électroménager, les ordinateurs portables et pas fixes.
Ouais, ça revient même.
Les télévisions, les tablettes, après les ordi fixes, les consoles, les chaînes Hi-Fi et les liseuses en dernière position.
Les liseuses.
Ouais, les liseuses qui sont arrivées à 2,5% des suffrages.
Après,
c'est vrai qu'on se demande pourquoi.
Ce sont des ressentis, si j'ai bien compris.
C'est des ressentis, en fait, voilà. C'est des gens, on leur a demandé, d'après vous, qu'est-ce qui, chez vous, subit l'obsolescence programmée. Et là, c'est les ressentis des gens. Donc voilà. Donc en fait, l'obsolescence programmée, elle pose plusieurs problèmes. Déjà sur le fait, c'est un truc qu'on peut pas prouver. C'est très difficile à prouver.
Très difficile.
Et le problème, c'est qu'aussi, les personnes qui recherchent ça, ça va du détective spécialisé à la petite personne qui pense tout savoir et qui dit tout sur Internet. Donc en obsolescence programmée, il y a plusieurs cas qui ont été démontrés dans l'électroménager et la télévision. Par exemple, je suis pas là pour mettre là un conflit Apple-Samsung, mais dans une TV Samsung, il y a pas longtemps, Samsung avait mis un condensateur qui résiste pas à la chaleur à côté du radiateur de la télévision.
Oui,
donc,
oui. Et du coup, mais c'est pas que, hein, il y a aussi sur les télés LG ou quoi qu'on... Voilà.
Ouais, mais sur les télévisions, c'est vrai que c'est assez courant comme problème. Donc là, moi, je vais vous parler du cas Apple, que vous connaissez sûrement, qui est apparu en fin 2017. Donc déjà, pourquoi il y a eu une polémique si importante ? C'est déjà parce que la marque est très populaire et beaucoup de monde possède leurs appareils. C'est une marque qui tente de donner toujours une image lisse, vous voyez, avec des beaux magasins et tout. Donc et c'est aussi une marque que les gens aiment bien dénigrer. Il y en a beaucoup qui aiment bien dénigrer la marque. Donc la théorie, c'est que quelqu'un sur Reddit, en fait, c'est un réseau social, a dit que son iPhone 6S avait accéléré énormément en changeant la batterie. Donc là, il y a plusieurs personnes qui se sont penchées sur le problème, notamment le développeur de Geekbench, qui est une application pour tester les performances des téléphones. Et en fait, il a en effet vu que depuis janvier 2017, Apple ralentissait les téléphones pour prévenir d'un bug en fait, qui les faisait crasher à 30 ou 40%. Apple s'est rapidement excusé. Ils ont dit, je cite, « Notre but est d'apporter la meilleure expérience utilisateur aux clients et de prolonger la durée de vie de leurs appareils. Les batteries au lithium perdent leur capacité en vieillissant. Le correctif apporté s'applique aux iPhone 6, 6S et SE et elle sera étendue aux nouveaux téléphones. » Donc Apple confirme qu'il bridait les téléphones. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ? Donc déjà, une batterie au lithium, il faut savoir que c'est un composé chimique. Et donc on ne peut pas le contrôler à notre guise. C'est la même chose pour tous les téléphones et tous les appareils qui possèdent une batterie de ce type. On peut dire, avec de grands guillemets, parce qu'on ne va pas excuser Apple non plus, qu'on peut qualifier cette pratique de bonne pour l'utilisateur, parce qu'il voulait juste, on va dire, que le téléphone dure plus longtemps. Mais cependant, le gros problème quand même, c'est qu'Apple n'a pas prévenu de cette pratique et il est resté comme d'habitude dans le plus grand secret. Donc c'est inacceptable d'avoir rien dit que l'utilisateur va être ralenti. C'est très bizarre, surtout qu'Apple a des bonnes raisons de le faire, donc c'est très bizarre qu'il ne l'ait pas prévenu. Donc en conséquence, Apple a baissé le changement de batterie de 80€ à 30€ pour l'année 2018. Et petite news pour tous ceux qui ont un iPhone, une mise à jour qui va arriver d'ici à peu près un mois va pouvoir permettre de choisir entre un mode bridé ou un mode performance maximale. Donc chacun se fait son avis dessus. Pour moi, c'est pas de l'obsolescence programmée parce que l'appareil redevient neuf après un simple changement de batterie. Maintenant, j'attends votre avis.
Bah, pour moi, même hors de ce cas, Apple utilise l'obsolescence programmée dans... Enfin, parce que la définition peut s'élargir. Apple réduit la compatibilité de ses accessoires, ce qui pousse ses consommateurs à acheter des objets annexes de la marque Apple, et on appelle ça dans le milieu un marché captif.
Oui, je rebondis sur ce que tu dis. Dans le cas que tu viens de nous présenter, Théo, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment appeler ça de l'obsolescence programmée, mais il faut savoir que Apple, et ils ne sont pas les seuls, rien que dans leur manière de faire les choses, par exemple en sortant régulièrement de nouveaux appareils, en limitant la compatibilité, comme tu viens de dire Loïc, des appareils entre eux, et aussi en faisant en sorte que, dans le téléphone portable, tout soit soudé les uns avec les autres et que ce soit très difficile en fait de réparer ou de changer une pièce particulière, ce qui oblige souvent les utilisateurs à acheter de nouveaux appareils, étant donné que ça, au final, c'est plus rentable. Parce que acheter par exemple 80€ une batterie, c'est quand même pas donné, et souvent le cas par exemple des imprimantes. Souvent acheter une nouvelle imprimante, c'est beaucoup plus rentable que de la réparer. De la réparer. Et en général, au magasin, ils vont vous dire c'est un truc qui n'est pas réparable, oui. Il faut le changer. Alors que c'est faux, souvent.
C'est faux, et en plus, ils ont une puce qui compte le nombre de photocopies que l'on fait, et à partir d'un certain nombre, cette puce engendre un mécanisme entre guillemets pour détruire l'imprimante, qu'elle ne fonctionne plus.
Parce que l'obsolescence programmée, c'est pas juste, par exemple, comme tu viens de le dire, simplement mettre un programme défectueux à l'intérieur de la machine ou faire en sorte que ça soit pas résistant. C'est comme je l'ai dit juste avant, ça peut être aussi en faisant en sorte que ce soit pas réparable ou que de nouvelles machines sortent très régulièrement, et ça c'est aussi le problème un petit peu du capitalisme et de l'explosion des nouvelles technologies, c'est qu'il y a de nouveaux appareils qui sortent très régulièrement, et donc ça incite aussi les gens quelque part à consommer
d'autant plus,
et forcément les fabricants n'ont plus forcément envie, quelque part c'est plus du tout rentable de créer des machines de bonne qualité, ça ne va de toute façon pas se vendre suffisamment pour que ce soit rentable.
En effet, c'est ce que j'avais vu dans un sondage et dans une image, en fait, les constructeurs, que ce soit TV, électroménager, tout ce que vous voulez, ont beaucoup accéléré ces dernières années le rythme de sortie de leurs appareils. Et donc beaucoup de gens, il y a eu un sondage qui a été fait que j'ai regardé aussi, disent que ça nuit, que ça a créé l'obsolescence programmée, entre autres.
Est-ce que vous le ressentez, par exemple, l'obsolescence programmée dans la vie de tous les jours, votre ressenti ou...
C'est vrai qu'on peut quand même s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'objets numériques, la plupart du temps, qui ont une vie très limitée. Donc même si c'est vrai que c'est difficile à prouver, mais on peut quand même se dire, oui, ça existe. C'est pas un fait inventé.
C'est pas des rumeurs.
Voilà.
Ah oui, non, ça c'est sûr que ça existe, l'obsolescence programmée. Et je sais qu'en ce moment, nous, on a des problèmes avec mon ordinateur, qu'on l'a envoyé en réparation. Et pourtant, il n'est pas si vieux que ça, quoi. Et ça avec sûrement des bugs Windows 10.
Est-ce que c'était juste... Enfin, il est tombé en panne juste un peu après la garantie.
Non, il marche encore. Et il est encore sous garantie, normalement, il me semble. Mais... avec les installations de Windows 10, tout ça, le PC a eu du mal et tous mes logiciels ne fonctionnaient plus. Il y a eu des problèmes avec la mémoire aussi qui était tout le temps pleine alors qu'on n'avait rien sur l'ordinateur. On avait beau vider tout ce qu'on voulait, la mémoire était toujours pleine. Voilà, donc on avait pas mal de soucis à ce niveau-là.
Et toi, Owen, est-ce que tu le ressens
Bah moi, j'ai jamais été victime, entre guillemets, de cette obsolescence. Bref, programmé.
Ouais. Essence programmée.
Voilà, c'est ça, j'ai du mal. Non, j'ai jamais eu ce problème.
Jamais.
Non, jamais, franchement jamais.
Bon, et pour ceux qui ont eu le problème, ou même ceux qui ne l'ont pas eu, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre
C'est très difficile. Hein.
Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, j'ai appris ça récemment, ils cherchent de plus en plus des alternatives à cette mode de l'obsolescence programmée. Bien sûr, les utilisateurs essayent de plus en plus à mettre en priorité la qualité, bien sûr, des produits. Mais il faut savoir qu'il y a une entreprise qui s'appelle iFix ou iFix, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui récupère les appareils en panne, donc ça peut être des appareils ménagers, des télés, etc., et cherche une solution pour la réparer. Et en général, c'est pour réparer des éléments, par exemple. On va retourner sur une imprimante ou sur un téléphone portable qui sont au final réparables et même peut-être facilement réparables. Et que vous étiez allé chez un spécialiste, il vous aurait dit bah mieux vaut changer. Et c'est une belle initiative, je pense.
Pour moi, les solutions, en vrai, elles sont multiples. Hein. Faut pas se culpabiliser, se dire, être fataliste. Déjà, il y a le marché de l'occasion. On peut racheter. Des choses au lieu de les jeter, hein, parce que là où finissent, donc on peut acheter aller dans le marché de l'occasion. On peut aussi bidouiller, être créatif, fouiller. Par exemple, dans une imprimante, il y a beaucoup de tutoriels pour enlever ces puces qui sabotent l'imprimante, hein, faut dire ce qui est. Par exemple, dans des forums, certains s'organisent pour... faut être malin, être créatif et... Essayer de bidouiller. Et aussi, peut-être, au niveau, en passant par les lois, essayer de rallonger les garanties pour pousser les industriels à changer de mode, d'arrêter l'obsolescence programmée, tout simplement.
Et donc, oui, si on s'intéresse à la législation, il faut savoir que depuis juillet 2015, en France, donc l'obsolescence programmée, c'est passible de 2 ans de prison pour les responsables de l'entreprise et de 300 000 euros d'amende maximum, donc c'est quand même énorme. Et au niveau européen, donc le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de légiférer sur l'obsolescence programmée afin d'avoir une harmonisation européenne à propos de ça. Voilà.
Tout à l'heure, je parlais aussi de tout ce qui était des logiciels informatiques, tout ça. Donc moi, je parle surtout des logiciels sur PC. Parce qu'en effet, alors bon, ça remonte à quelques années, donc je ne sais pas si c'est encore vraiment d'actualité. Mais avec Adobe, j'avais mon parrain qui travaillait chez Adobe et qui nous avait dit qu'effectivement, il y avait des programmations de bugs sur les logiciels pour pousser les gens à faire les mises à jour, toujours à dépenser des trucs. Voilà, et alors je sais pas si c'est encore d'actualité tout ça, mais ça, c'est vraiment partout en fait l'obsolescence. Et mon parrain me disait que c'était question économique en fait, ça permettait vraiment de gagner de l'argent. C'était un gain d'argent presque gratuitement, enfin comme ça.
Bah oui, parce que les gens rachètent les aliments, les gens en rachètent régulièrement, alors que des produits high-tech ou même des ampoules qui sont censées durer. Très très longtemps, je veux dire, pour pousser les gens à racheter et à faire tourner l'économie, entre guillemets, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est l'obsolescence programmée.
Oui, parce qu'il faut savoir que l'ampoule a été le premier, premier élément à être vraiment programmé d'avance pour ne durer qu'une certaine période.
1000 heures.
Oui, voilà. C'est en 1920. C'est dans les années 1920 que.
Ouais, c'est ce que j'ai vu.
Voilà. Que les ampoules ont été un petit peu.
Sabotées.
Voilà. Non, pas sabotées. Mais il y a des marchands d'ampoules qui se sont réunis et qui ont décidé de ces 1000 heures.
Go, on fait péter les ampoules au bout de 1000 heures. Allez.
Ouais, non, mais vraiment, oui, c'est ça. On a réussi à créer une ampoule et on avait prévu qu'elle puisse durer un siècle ou plus, je ne sais plus. Mais voilà, donc non, si ça avait été le cas, ça aurait été vraiment la ruine pour les vendeurs d'ampoules. Et donc, quelque part, l'obsolescence programmée, c'est un intérêt économique réel. Voilà, voilà.
Bah, c'est avant les ampoules, avant le comité des 1000 heures, entre guillemets, elle durait en moyenne 1500 heures, voire enfin, après 2300 heures. Et après ce comité, régulièrement, en parallèle, il y avait des brevets d'ampoules déposés qui duraient, certaines en tout cas, jusqu'à 100 000 heures.
Ah, il a existé des ampoules qui duraient beaucoup plus longtemps. Il faut savoir qu'il y en a une qui a vraiment été... ils ont vraiment fait un diagnostic et ils se sont dit que ça peut vraiment durer un siècle si on le tournait en continu.
Ah bah,
et je crois qu'il y a des ampoules, je crois qu'il y en a une aux États-Unis.
Caserne de pompiers.
Ouais, je crois que c'est ça. Qui dure depuis un très grand nombre d'années.
100 ans.
Voilà. Et puis on peut aussi parler des machines, enfin de l'électroménager et des anciennes machines, par exemple à laver le linge, qui peuvent durer jusqu'à 25-30 ans. Et on peut se poser une question, pourquoi actuellement, est-ce que c'est vraiment l'obsolescence programmée qui détruit beaucoup plus rapidement les machines actuelles, ou c'est aussi, avec l'évolution des technologies, on a besoin de matériaux qui forcément, même si on essayait de faire bien, ne pourraient pas durer aussi longtemps que les éléments du passé? Et moi, c'est une question que j'aimerais bien poser et ce serait bien de réfléchir là-dessus aussi.
Après, l'exemple le plus concret qu'on puisse avoir sur l'obsolescence programmée, je pense que c'est effectivement les téléphones portables. Rien qu'à voir les anciens Nokia, ce que nous, à la maison, on appelle les téléphones aux ors. C'est ce genre de téléphone incassable. Nous, on a un Nokia à la maison et il a tout vécu. C'était un Nokia qui a plongé dans l'eau, qui était tombé dans le pédiluve de la piscine, et il est intact et il marche encore, et c'est presque incroyable, alors que nous, nos téléphones, on les fait tomber dans les vitres l'espace de 2 secondes,
c'est
ça,
bon,
y est, il est mort. Moi, j'ai perdu un téléphone comme ça, donc
voilà. Je connais. Ouais.
On les fait tomber dans une flaque d'eau, ça se casse au moindre truc, voilà.
Acheter des Nokia. Donc,
acheter ouais. Les téléphones aux
ors. Acheter des Nokia.
Alors, non, si je peux me permettre, j'ai dans le même sondage qui a été fait à un salon, le même sondage que je vous ai fait, ils ont demandé aux mêmes consommateurs, d'après eux, quelle marque pratiquait l'obsolescence programmée et chez qui ils l'avaient ressenti. Et donc, la première réponse, c'est Apple, après Samsung, et en troisième, j'ai été très surpris, c'était Nokia. Donc j'ai pas
les nouveaux
très
Nokia
compris.
Sont peut-être pas forcément hyper top, mais
ouais, mais bon,
mais
j'étais
en tout cas les vrais les anciens Nokia là, je sais plus exactement lesquels c'est, mais genre, bah, je crois que tout le monde voit de quoi je parle. C'est ça.
D'ailleurs, vas-y, excuse-moi.
Non, parce qu'on va peut-être passer à la pause musicale aussi et reprendre ce débat juste après.
Ah très bien, très bien.
Donc je laisse la parole à Théo qui va nous lancer la musique.
Et donc là, on va s'écouter Hold On de Roosevelt.
Thank you.
Et donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce débat. Donc dans la deuxième partie, on va toujours parler d'obsolescence programmée, mais plus de ce que vont devenir les objets après et l'impact que ça peut avoir sur la société. Donc je vous laisse la parole. Loïc, je crois que tu avais quelque chose à nous dire là-dessus.
Ou peut-être...
Ou peut-être Anna.
Oui.
Bien sûr. Donc l'obsolescence programmée est vraiment beaucoup dénoncée par les écologistes, ce qui paraît un peu normal, puisque comme la durée de vie des biens est limitée, les déchets sont plus nombreux, donc la pollution est d'autant plus nombreuse. Voilà.
D'ailleurs, les vieux ordinateurs, les vieilles télés et tout ça ne partent pas au centre de recyclage, mais beaucoup finissent au Ghana, principalement, ou au Nigeria, où on balance les vieux ordinateurs, les vieilles machines sur, par terre, et ça crée des paysages... ça détruit les paysages, ça vide les lacs, il y a plus de poissons, les sols sont jonchés de détritus, et on balance ça comme ça.
Ouais, c'est clairement la poubelle du monde à ce niveau-là, et c'est abominable. Je sais pas si vous avez déjà vu des images de la grande déchetterie d'Afrique.
Ouais, on dirait un film.
Non mais c'est abominable. Ça.
C'est plus des dunes de sable, c'est des dunes de déchets.
Oui,
je pense
vraiment.
Je pense pas qu'il y ait de dunes de sable dans cette région-là, particulièrement, surtout
non,
au Ghana.
Non, pas forcément
mais...
dans cette région,
mais
à mon avis, il y a des dunes
mais
de déchets qui
vous
sont.
Vous voyez à peu près ce qu'on veut dire. C'est.
Et on a
c'est
un autre type
abominable.
De désert.
Parce que. En plus, on n'abîme pas notre environnement en particulier, même si on le fait aussi. On détruit l'environnement des autres qui n'ont pas encore été complètement lancés dans la mondialisation. Et en fait, on les détruit avant qu'ils ne se détruisent eux-mêmes quelque part.
Oui,
c'est abominable, je trouve, comme pratique.
On leur donne les déchets de choses qu'ils n'ont même pas eux-mêmes produits, utilisés, etc.
Ouais.
Et on voit une accélération. C'est un désastre au niveau...
écologique.
Écologique et pour la biodiversité.
Environnementale, la biodiversité, des paysages sur à peu près tous les plans.
Ouais. Donc, est-ce que vous. Ça vous choque vous aussi, je suppose ?
Bah, évidemment.
Et donc.
Merci !
Bien évidemment hein.
Je sais pas.
Bien sûr, Loïc, c'est choquant quand même. C'est vraiment désagréable de voir.
Je serais pas choqué par de la pollution comme
ça.
Quoi.
C'est
une pollution monstre.
Oui, mais c'était pour.
Après, il y a une différence entre être choqué et être atteint réellement.
Tenter de donner la parole aux gens, il y a que moi qui ai réagi.
Les SDF. Tout le monde est choqué, mais personne ne fait rien. Et c'est pour ça qu'on pose la question, c'est est-ce que ça vous touche réellement ? Est-ce que ça devrait ? C'est quelque chose de très important. Il ne faut pas se dire c'est tragique. Il faut aussi faire quelque chose dans sa vie, c'est-à-dire continuer son combat. Après avoir écouté le fait que c'est horrible dans cette région-là et tout, il faut quand même, je pense, adapter sa vie au monde actuel et essayer de faire, même si c'est des petites choses, essayer d'aller vers le mieux quelque part. Parce que à continuer de consommer comme on le fait, on va détruire notre environnement et celui des autres. Et rien que par exemple, si vous pouvez garder votre téléphone portable ou n'importe quel appareil 2-3 ans de plus, et ben c'est 2-3 ans où vous n'aurez pas à, comment dire, c'est-à-dire que vous n'avez pas acheté un autre élément, donc une autre par exemple machine à laver, et ça vous permet donc de ne pas jeter l'ancienne qui atterrira au Ghana.
Ouais. C'est... D'ailleurs,
Oui, non, mais généralement, quand on rachète une machine à laver, vu le prix, c'est pas un truc dont on se sépare facilement.
Oui, mais ça dure pas 25 ans. Hein, parce que moi, j'ai.
C'est le problème. Mais donc, si ça ne dure pas, c'est qu'elle fonctionne vraiment plus.
Il faut savoir que les anciennes machines à laver duraient très longtemps. Moi, j'en ai encore une actuellement. Elle a duré 25 ans.
Oui.
Mais les nouvelles, elles durent
alors,
pas 5 ans.
Un frigo.
Mais le problème, c'est qu'on s'en débarrasse pas parce qu'on le veut. Parce qu'on veut juste une nouvelle machine à laver. Effectivement, il y en a qui font ça avec les téléphones.
Il faut savoir.
Moi,
ça, on va y revenir après. Un frigo aujourd'hui dure en moyenne 10 ans.
Oui,
alors
c'est le problème.
Alors que maintenant, avant, il durait bien beaucoup. Il pouvait durer beaucoup plus longtemps.
Et même si ça fait des économies d'eau au niveau des nouvelles machines à laver, c'est quand même une machine en moins, quoi. Et après, c'est dû aussi à notre mode de fonctionnement, quoi.
Justement, on nous y amène.
Ah, c'est une belle transition.
Il n'existe pas que... Ouais, transition extraordinaire. Il n'y a pas que l'obsolescence programmée, il y a aussi l'obsolescence psychologique. C'est-à-dire, par exemple, la mode. Un vêtement peut paraître démodé, et même si on pourrait utiliser ce vêtement, je parle de vêtements, mais ça peut être tout, on va vendre une nouvelle collection et les gens seront poussés à acheter de nouveaux vêtements alors qu'ils...
On en avait légèrement parlé en première partie, c'est le fait vraiment de... Comment dire, de pousser technologiquement à chaque fois. Il y a de nouvelles applis, c'est vraiment de nouvelles choses et ça force les gens à consommer. Et c'est vrai que ça entraîne un effet de mode, comme tu le dis. Et donc, ouais, c'est un effet pervers, je trouve.
On voit bien chaque année, limite, de nouvelles voitures qui sortent, dont les capacités, ce qui change réellement par rapport à l'ancien modèle, c'est purement esthétique.
Il y a souvent des petites avancées, mais c'est pas vraiment des avancées concrètes au niveau technologique. En général, c'est des petites idées, genre, et si on faisait en sorte qu'on mette un truc tactile pour, tu sais, la reconnaissance tactile au niveau des portables. Voilà, c'est un nouveau truc pour la sécurité. Bon, c'est jamais des trucs vraiment...
Faut quand même pousser à acheter, mais au lieu de faire un véritable autre modèle qui a vraiment son intérêt propre, on ralentit le progrès technologique, du moins en surface, et en faisant vraiment petit à petit.
Voilà, c'est comme si on rajoutait des petites applis. Ouais.
Est-ce que vous le voyez dans la vie de tous les jours, l'obsolescence psychologique entre guillemets, est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être que la mode ou les voitures ou...
Bah, je pense qu'on peut la retrouver un peu partout. Enfin, il n'y a pas que la mode, que les voitures. C'est juste la surconsommation, surtout des pays du Nord, qui pousse tout le temps les gens à acheter en fonction de, je sais pas, de telle star, personne.
Telle sortie de film.
Voilà, exactement.
C'est le principe même de la publicité et tout ça aussi, parce que, je sais pas, pour les SI qui sont ici, on se souvient, je sais pas si vous vous souvenez du texte qu'on avait étudié en français sur le d'un publicitaire qui nous expliquait je vous vends de la merde. Qui expliquait que vraiment c'était fait pour, en gros ce qui est là vous apportera plus que ce que vous avez avant, alors que absolument pas. Voilà, c'est le but même de la publicité, c'est de pourrir ce qu'on a avant pour dire que ce qu'il y a maintenant, c'est incroyable, c'est ça qu'il nous faut, voilà. Et puis pour au final, quand on l'a, c'est déjà dans catégorie pourrie et qu'il y a déjà un nouveau truc qui est sorti.
Ouais, tout ça, ça vient la société américaine de consommation qui a émergé à l'après-guerre.
La société de consommation vient bien des États-Unis. Et en fait, j'ai l'impression qu'on en revient à chaque émission du fait que la société de consommation et le capitalisme est relativement nocif, on va dire, pour notre société. On en revient à chaque émission.
Non, c'est plutôt l'extrême, on va dire.
Oui, après, on peut faire
d'ailleurs,
de manière soft. Mais...
En parlant des États-Unis, si je me trompe pas, ils n'ont pas de loi réelle pour, par exemple, condamner l'obsolescence programmée.
Ça se base sur toute leur économie. Donc,
et d'après ce que je sais, il n'y a que l'Union européenne qui a une loi contre l'obsolescence programmée et qui donne vraiment une grosse peine à ceux qui l'ont causée.
Oui, bien sûr. Mais faut rappeler que prouver l'obsolescence programmée, c'est très difficile. C'est assez compliqué. Donc les peines tombent rarement.
Oui, à mon avis, c'est dès qu'il va avoir un coup médiatique sur une entreprise que les gens vont commencer à dénoncer le fait que telle ou telle machine tombe en rade rapidement. Il va avoir des recherches poussées là-dessus. Et même si c'est pas réellement, ou en tout cas, c'était pas volontaire de la part de l'entreprise, ils vont trouver un élément qui va les toucher. Et là, ils vont dire, OK, on applique la peine. Mais je sais pas si ce sera vraiment une loi efficace. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Comment ça marche exactement ? Je ne sais pas.
En tout cas, c'est pas près d'arriver parce que, oui, je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est une base même de la plupart de leur économie. C'est trop grand pour l'instant être
donc
supprimé.
Si,
quoi.
Donc, si on ne peut pas faire changer ça au niveau, en créant des législations, etc., du coup, ce qu'il faudrait pour lutter contre ça, ça serait changer nos habitudes ?
Bien sûr.
Oui. Mais en fait, commencer vraiment à se poser des questions à ce niveau-là et manifester notre mécontentement. Enfin, en France, c'est déjà le cas, mais aux États-Unis, pas encore.
Ou juste, par exemple, tous des petits trucs comme ça, et éviter d'acheter. Par exemple, pour une friteuse, vous voulez acheter une nouvelle friteuse. Eh bien, il y aura à disposition pour vous des friteuses dites normales. Normal, ouais.
Une friteuse normale, oui, ça se
ouais,
dit.
Voilà, j'étais pas sûr, merci, heureusement que vous êtes là. Normal, et des friteuses high-tech avec un petit écran qui vous montre la température, machin truc. Et c'est souvent ces produits avec des petits plus, voire même des gros plus high-tech qui tombent le plus rapidement en panne, qu'ils ont plus rapidement des problèmes. Donc, je vois que vous faites signe.
Ouais, donc si vous n'avez, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter ?
Ah, on pourrait y passer la nuit. Hein.
Ah oui, c'est vrai, mais
malheureusement.
Non.
Juste pour finir sur une note positive, n'hésitez pas à acheter, dans le marché de l'occasion, voir sur Internet les forums, etc. Pour fouiller, chercher, bidouiller et garder vos objets plus longtemps.
Faut savoir se renseigner.
Et les réparateurs de rue aussi.
Oui,
c'est...
les cafés de réparation, exactement. Ouais.
Pour un monde plus juste, changez vos habitudes.
C'est une très belle conclusion. Merci Ronan pour ce mot de la fin.
De rien.
Donc on va se quitter et on se retrouve pour une prochaine.